Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Il y a 40 ans, le CEPEL voyait le jour à Montpellier. Fondé en 1983 sous l'impulsion de Paul Alias, figure bien connue de la faculté de droit et de sciences politiques, il est d'abord un centre comparatif des politiques publiques et des espaces locaux. En 1999, Jean-Pierre Godin prend sa succession et deux ans plus tard, le CEPEL devient centre d'études politiques de l'Europe latine, exprimant par là les rapports privilégiés que les chercheurs et chercheuses de cette équipe entretiennent avec les objets et les réseaux académiques des pays d'Europe du Sud. En 2003, Hubert Pérez prend la direction du laboratoire jusqu'en 2014, où il est alors remplacé par William Géniès. On me reprendra si je prononce mal. Mais le CEPEL n'a pas encore fini sa mue et il devient, sous la direction d'Emmanuel Négrier, le centre d'études politiques et sociales pour mieux inclure les sociologues, philosophes, ethnologues et même épidémiologistes qui ont rejoint l'équipe au fil du temps. Pour célébrer ses 40 ans de recherche, d'échange, de collaboration, le CEPEL organise donc les 14 et 15 décembre prochains un colloque international intitulé « Le territoire dans tous ses états ». Il regroupe une dizaine de conférences dont l'éclectisme des thèmes donne à voir la diversité des objets de recherche de ce centre d'études quadragénaire. Et pour nous associer à cette fête, nous avons choisi d'inviter aujourd'hui une figure emblématique du CEPEL et ça tombe très bien puisqu'il vient de publier aux éditions La Découverte un ouvrage intitulé « La politique en Espagne ». Comment est née la nation espagnole ? Comment la transition vers la démocratie s'est-elle opérée après Franco? Comment se sont construites les revendications indépendantistes et la réponse autonomiste? Comment s'est réorganisée la scène politique actuelle? Toutes ces questions qui seront mieux formulées, nous les abordons avec lui pendant les 20 prochaines minutes. Avec nous dans le studio, Hubert Pérez. Bonjour et bienvenue dans Allume la science.
Bonjour, merci.
Donc j'ai à peu près fait le tour. Vous êtes donc professeur émérite à la faculté de droit et sciences politiques et chercheur au CEPEL, dont vous avez assuré la direction pendant plus de 10 ans. C'est bien ça?
C'est ça.
Elle m'a avoué hier qu'elle maîtrisait mieux le calimucho que la politique espagnole. Avec moi pour mener cette interview, Aline Perriot.
Bonjour.
Alors, pas de reportage aujourd'hui, mais notre invitée des trois dernières minutes sera Christine Lered, géophysicienne à l'Université de Montpellier, qui nous présentera la prochaine conférence de l'OREM. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 57.
Alors, donc c'est toujours ambitieux dans une émission de 20 minutes d'aborder un ouvrage complet, peut-être encore plus ici, Hubert Pérez, donc, puisque votre analyse de la structuration politique de la démocratie espagnole, elle débute à la fin du 8e siècle, avec l'Espagne musulmane, puis bien plus tard l'apogée des rois catholiques, Isabelle de Castille, Ferdinand d'Aragon, Charles Quint, on va pas tout refaire, mais on comprend qu'à cette époque-là, donc c'est cette période que l'Église catholique prend une place centrale dans la construction de la nation et de l'identité espagnole. Donc pour faire court, être espagnol, est-ce que c'est être catholique ?
Ben, si j'étais un nationaliste espagnol de droite, je vous répondrais oui, puisque c'est comme cela, effectivement, que la version dominante du nationalisme espagnol qui s'est construit à partir du 19e siècle définit l'Espagne. Définit l'Espagne comme étant une nation catholique et même la meilleure des nations catholiques. Évidemment, la réalité historique, elle est beaucoup plus nuancée que celle-là. Si je fais commencer l'histoire de l'Espagne politique au 8e siècle, c'est évidemment parce qu'il y a à cette époque-là, au contraire, une lutte entre plusieurs religions, puisque l'Espagne est envahie par des guerriers qui sont de religion musulmane, qui vont construire un État musulman qu'on appellera Al-Andalus, qui connaîtra des phases extrêmement différentes. Et cette histoire-là marque très très fortement l'histoire de l'Espagne, non seulement parce qu'il y a à cette époque-là une coexistence tout à fait inégalitaire qu'il ne faut pas du tout comparer avec la tolérance religieuse qui existe aujourd'hui, mais enfin une coexistence inégalitaire de trois religions au sein de la population espagnole, mais aussi parce que comment ce grand mouvement que plus tard au XIXe siècle on appellera la reconquête, la reconquista, la reconquête chrétienne, qui va effectivement politiquement, socialement, culturellement imposer la domination l'évolution de l'Église catholique et du catholicisme dans la société espagnole et qui fera en effet de l'Espagne une nation religieusement catholique, pratiquement sans aucune opposition, et qui sera la matrice essentielle de la construction de la notion de la nation espagnole au XIXe siècle.
Alors c'est justement au XIXe siècle qu'on voit un autre courant donc monter, c'est l'anarchisme. Donc cet anarchisme, il est très fort chez les ouvriers et chez les paysans, il est fortement anticlérical. Est-ce que c'est à ce moment-là que vont se nouer justement tous les conflits qui vont aboutir à la guerre civile en 36?
Alors bon, c'est l'opposition entre l'Espagne très fortement catholique et une Espagne qui veut se détacher un peu de l'Église, c'est plus ancien que ça. Il y a toujours eu une opposition à l'Église catholique. D'ailleurs, c'est contre quoi l'Inquisition a été créée, pour extirper de la société espagnole tout ce qui pouvait paraître menacer l'hégémonie du catholicisme.
Donc, trois siècles d'Inquisition, vous le rappelez.
Absolument. Même plus, hein, puisqu'elle a, oui, on peut dire pratiquement quatre siècles. Mais enfin, donc surtout dans les deux premiers siècles, elle a été extrêmement active. Alors, lorsque le mouvement ouvrier commence à se structurer en Espagne, il y a aussi une séparation assez forte, la construction d'une autre Espagne qui accuse l'Église d'être le soutien des puissants et des puissances à la fois étatiques et capitalistes. Mais l'anarchisme va radicaliser effectivement cette opposition. Il faut rappeler, hein, c'est quelque chose de très étonnant, que l'Espagne est le seul pays d'Europe occidentale dans lequel l'anarchisme a eu un succès tout à fait considérable. L'anarchisme a été à un moment donné le mouvement ouvrier, le mouvement ouvrier et paysan le plus important à gauche, hein, dominant les socialistes pratiquement jusqu'à la guerre civile. L'une des grandes données de la transformation de l'Espagne politique depuis 50 ans, c'est précisément cette disparition de l'anarchisme, au contraire. Or, l'anarchisme est beaucoup plus radical que tous les autres courants de gauche vis-à-vis de l'Église, en partie, c'est une thèse que soutiennent un certain nombre de mes collègues et que je crois assez fondée, parce que d'une certaine façon, l'anarchisme repose lui-même sur une vision très religieuse et radicale du monde, sur une espèce de métaphysique, en comptant sur la pureté, en fondant son analyse sur l'importance tout à fait fondamentale du comportement des gens, de la droiture morale, etc. Donc on oppose un code moral à un autre code moral, ce qui durcit encore les oppositions. Ce qu'on peut dire, c'est que l'anarchisme a participé en effet à durcir très fortement les oppositions entre ce qu'on appellera les deux Espagnes.
Et donc, entre cette période et donc la victoire de Franco, il y a un épisode qu'on connaît peu en France de l'histoire de l'Espagne. C'est cette fameuse Seconde République. Elle a l'air de plutôt bien marcher, cette Seconde République. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle aboutit à cette guerre?
Alors, dans mon livre, je traduis littéralement en espagnol. On parle effectivement de Segunda República, que l'on pourrait traduire littéralement en français par Seconde République, à ceci près qu'en français, second veut dire qu'il n'y a pas de troisième. Alors, on est parfois optimiste parce qu'on parle du Second Empire, en pensant qu'il n'y aura jamais de Troisième Empire. Je préfère parler de Deuxième République parce qu'il n'est pas du tout certain, évidemment, que la monarchie soit éternelle en Espagne et qu'on n'arriverait pas à moyen ou à long terme à remplacer la monarchie par une République. Donc je préfère parler de Deuxième République, mais on peut parler de Seconde République.
C'est prudent, voilà, c'est prudent.
C'est un petit détail. Alors, elle marche bien. C'est effectivement la première vraie tentative en Espagne de construction d'un système démocratique qui repose sur le pluripartisme et sur des élections libres. En ce sens, on peut dire que c'est effectivement le premier véritable moment de la démocratie espagnole. Mais en même temps, elle ne fonctionne pas bien parce que les camps sont extrêmement polarisés, les oppositions sont extrêmement violentes, et au fond, une très grande partie des gens qui participent à ce jeu démocratique ne reconnaissent pas la légitimité de la participation des autres. Alors, c'est vrai de la droite religieuse qui considère que la gauche est anti-religieuse et anti-Espagne et anti-catholique, mais c'est vrai aussi d'une grande partie de la gauche qui considère qu'il faut se débarrasser à tout prix de l'Espagne catholique, que la droite est l'ennemi absolu et qu'il faut s'en débarrasser. Donc il y a des oppositions extrêmement fortes qu'à un moment donné, le compromis n'est plus possible, que le dialogue n'est plus possible, et ça va déboucher sur la guerre civile.
Alors la deuxième partie de votre livre, elle s'appelle de la dictature à la démocratie, une transition en trompe-l'œil. Et vous écrivez en préambule de cette partie que le temps qui s'écoule entre la fin de la dictature, donc à la mort de Franco en novembre 1975, au passage à la démocratie en 1978, lorsqu'une constitution démocratique est ratifiée par le peuple, cette période qui est qualifiée de transition, elle est étonnamment courte. Alors après la mort de Franco, sous lequel l'Espagne était ce que vous appelez un royaume sans roi, le pays est redevenu une monarchie avec Juan Carlos. Ce roi, c'était l'héritier désigné par Franco. Et pourtant, c'est avec lui que s'est fait le passage à la démocratie. Comment ça se fait?
Oui, mais Alors ça s'insère dans quelque chose de beaucoup plus général, hein, sur le fait que si la transition a été courte, si les choses se sont passées avec un minimum de violence, il y a eu des violences hein, pendant la transition démocratique, en particulier de la part du mouvement basque État, mais bon, ça n'a pas été une révolution sanglante, ça n'a pas été une période particulièrement mortifère. Si cette transition a été aussi rapide, si elle a été menée de cette façon, c'est parce que les gens qui ont son initiative, ce sont d'anciens cadres du régime, et le roi, il est représentatif de cette catégorie de personnes. Il a été choisi par Franco, il est éduqué politiquement par des gens du régime, et pourtant il va être un des éléments tout à fait fondamentaux du passage, entre guillemets, relativement tranquille à la démocratie, parce que la transition a été menée par d'anciens élites franquistes qui sont convaincus que le régime est obsolète et qu'il faut rejoindre le camp des démocraties occidentales.
Alors le 15 décembre 1976, la loi de réforme politique est soumise à un référendum qui devient la toute première consultation de type démocratique organisée depuis 1936. Qu'est-ce qu'elle propose cette loi ?
Oh ben, elle propose quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est une assemblée qui vote sa propre dissolution. C'est une assemblée qui va voter la fin des institutions dont elles étaient le pilier, avec évidemment la figure du dictateur qui dominait tout ça. Donc la loi de réforme politique prévoit la dissolution de ce qu'on appelle les Cortes franquistes et l'élection d'une nouvelle assemblée au suffrage universel dans un contexte de pluripartisme. Et c'est cette nouvelle assemblée qui va se mettre au travail pour élaborer une constitution.
Et alors, qu'est-ce qui s'exprime dans les urnes lors de ce référendum ?
Le référendum, il est extrêmement important parce qu'il est approuvé très, très largement par l'ensemble, par le corps électoral espagnol à plus de 80%, avec une très forte participation. Et ça montre qu'il y a un soutien, en réalité, populaire à cette transition, à la manière dont cette transition est conçue par les élites franquistes dans les urnes. Ça permet de prendre de la distance avec une représentation qui est souvent donnée. Hein. Un certain nombre de mes collègues qui sont spécialistes de l'Espagne disent très fréquemment que la transition espagnole était une transition octroyée par le haut, que le peuple n'y a pas participé. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette interprétation. Le peuple y a participé, mais fondamentalement dans les urnes, en adoubant quelque chose, en quelque sorte, ce processus tranquille que l'on appelait aussi de la loi à la loi en passant par la loi. Et ceci s'est confirmé tout au long de la transition démocratique avec un soutien populaire apporté dans les urnes. Ça a convaincu, par exemple, ce succès du référendum de novembre 1976, ça. Une des choses qui ont convaincu la gauche, les grands partis de gauche, en tout cas le Parti communiste et le Parti socialiste, à se rallier au scénario prévu par le franquisme, parce qu'ils ont bien vu que si le peuple ne voulait pas se mobiliser en masse dans la rue pour faire la révolution, il était prêt à accompagner ce mouvement de sortie de la dictature par des instruments législatifs.
Alors le système qui émerge des premières élections législatives de 1977, il est caractérisé, vous dites, par un quasi-bipartisme avec le PSOE et le PP. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ces partis dominants ?
Alors en 1977, c'est pas tout à fait le PSOE et le PP, mais à l'époque, c'était le parti qui avait été construit autour du Premier ministre, également un ancien franquiste, Adolfo Suárez, et qui est une autre grande figure de la transition démocratique. Mais peu à peu, ce courant va disparaître, et en effet, va émerger en Espagne ce qu'on appelle aujourd'hui le Parti populaire, qui porte ce nom simplement depuis 1989. Par contre, le Parti socialiste espagnol devient le parti le plus important à gauche dès 1970. À la grande surprise de beaucoup d'observateurs qui pensaient que les communistes qui étaient plus présents dans l'opposition, beaucoup mieux structurés, seraient le premier parti de gauche. Or, le Parti communiste est très loin du Parti socialiste. Le Parti socialiste donc s'impose très fortement. Et en face de lui, il a un parti centriste, en quelque chose qui va disparaître et qui va laisser la place au Parti populaire. Alors ce sont les électeurs dans les urnes hein, qui décident cela. Ce qu'on appelle ce quasi-bipartisme. On dit quasi-bipartisme parce qu'il y a d'autres partis. Il y a des partis qui sont nombreux, à la fois sur la scène nationale. Je viens de faire référence au Parti communiste, par exemple. Il y a aussi des partis dans ce qui deviendront les autonomies, des partis qui n'existent qu'à l'échelle de leur autonomie, mais qui participent aux élections nationales, les plus connus étant les partis basques et les partis catalans. Donc on n'est pas tout à fait dans la situation britannique, où on a vraiment deux grands partis qui dominent de façon presque absolue la scène politique. On a deux grands partis qui dominent, mais avec une myriade d'autres partis qui sont très importants. Néanmoins, la force du Parti socialiste, du Parti populaire, va leur permettre de monopoliser le pouvoir. Et tous les présidents du Conseil, l'équivalent du Premier ministre en France, depuis la transition démocratique, ont soit été des gens du Parti populaire, soit des gens du Parti socialiste.
Alors vous m'avez fait un
vous m'avez fait une transition vers votre troisième partie. Donc vous arrêtez sur le Pays Basque et sur la Catalogne, sur les revendications indépendantistes donc qui naissent à la fin du 19e, on en a parlé. La Seconde République va leur offrir un statut autonome. Et donc à la mort de Franco, ces revendications, elles ressortent. Donc l'État va donner un statut, vous me reprendrez, un statut de communauté autonome en Catalogne, pas tout à fait à la Catalogne, mais pas tout à fait en 77, au Pays Basque en 78. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va passer de ces deux autonomies à soudainement une Espagne organisée en 17 communautés autonomes? Pourquoi?
Alors ceux qui ont reconnu en 1977, ce sont des régimes que l'on appelle de pré-autonomie. Elles deviendront ça, des véritables communautés autonomes un tout petit peu plus tard. Si vous voulez, dès cette époque, les élites franquistes et les gens de gauche qui vont finalement se rallier à cette transition tranquille passant par les urnes font l'analyse que pour limiter les conflits, il faut arriver à faire en sorte de ne pas arriver... ne pas aboutir à cette guerre qui avait opposé, au moment de la Seconde République, les gens qui voulaient effectivement l'indépendance de la Catalogne et du Pays Basque avec les gens qui voulaient une Espagne indépendante. Donc l'idée de l'autonomie qui existait dans la Constitution de la Seconde République, elle va être reprise. Hein, on va essayer de calmer les ardeurs indépendantistes et en même temps de calmer les inquiétudes de ceux qui veulent un État unitaire en adoptant une formule que l'on appelle la formule des autonomies, qui est une formule très très ingénieuse et qui fait que l'Espagne n'est pas un État fédéral, elle est officiellement un État unitaire, mais dans la réalité de son fonctionnement, elle ressemble beaucoup plus à un État fédéral qu'à un État unitaire. C'est très difficile à comprendre pour un esprit rationaliste français où pour nous, il y a des oppositions très très fortes. Si on n'est pas un État unitaire, alors c'est la chienlit. Non, l'Espagne, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Alors, seulement, ce que n'avaient pas prévu les gens qui ont conçu ce système, c'est que ça réveillerait dans d'autres parties de l'Espagne, l'envie effectivement d'autonomie, de représentation dans le système politique, d'élites politiques locales qui ont milité pour qu'on reconnaisse également l'autonomie à d'autres régions. Et les gens du pouvoir central finalement n'étaient pas mécontents parce que ça permettait de limiter l'aspect privilège accordé à la Catalogne et au Pays Basque. Et c'était aussi un moyen de calmer les inquiétudes de ceux qui pensaient que cette autonomie allait conduire à l'éclatement de l'Espagne. Donc beaucoup de gens avaient intérêt à cette formule souple, très peu contraignante au départ, très évolutive, toujours ouverte, de l'autonomie pour faire en sorte que l'Espagne n'éclate pas, mais en même temps qu'elle reconnaisse sa diversité culturelle et politique.
Alors, sauf que ça ne va pas se passer tout à fait comme ça dans les faits, puisqu'on assiste justement à cette époque-là au durcissement très très fort et quasi militaire des revendications de l'État. Donc
La grande force le grand déraillement qui aurait pu se produire, c'est si les comportements de Euskadit Alkartasuna, ETA, avaient réussi, parce que ETA visait l'indépendance radicale de la Catalogne en comptant en quelque sorte sur la mobilisation des Basques contre un régime autoritaire, contre le régime franquiste. La démocratie, elle est menaçante parce qu'en apaisant les situations, elle menace en même temps la capacité de mobilisation autour d'elle, autour de la revendication de l'indépendantisme basque. Si au fond être indépendantiste basque, c'est pas lutter contre la dictature, eh bien il est moins pressant de vouloir d'accéder à l'indépendance du Pays basque. Et ETA va se déchaîner pendant cette phase de transition démocratique. Les années de la transition sont les années où ETA tue le plus. Elle fait plusieurs centaines de morts pendant les trois années de la transition, alors qu'il y avait eu moins de 50 morts entre sa naissance et le début de la transition. Donc ETA est un mouvement qui a essentiellement tué sous la démocratie. Mais finalement, ETA n'a pas réussi. Et alors, au cours du temps, elle a été peu à peu vaincue pour des tas de raisons qu'il serait trop long effectivement d'explorer ici en quelques minutes. Mais ETA va être vaincue. Aujourd'hui, ETA a disparu et les anciens soutiens politiques d'ETA se sont convertis au jeu démocratique et participent aujourd'hui au jeu démocratique au sein du Pays Basque et au sein même de la démocratie espagnole. Le grand parti basque de gauche, qui était autrefois un soutien d'État, grosso modo le mouvement que l'on appelle Bildu, aujourd'hui est un soutien de Pedro Sanchez, est un élément très très important de la coalition qui permet à un Premier ministre socialiste de renouveler son pouvoir aujourd'hui.
Alors on a un modèle très très différent en Catalogne où la situation ne va pas du tout se passer de la même manière. On est dans une... plutôt dans un assez bon fonctionnement. La Catalogne tire tout ce qu'elle peut de statuts assez extensibles, justement, des autonomies. Et puis, à partir de 2008, ça commence à se corser un petit peu.
Ouais. On a une sorte d'inversion chronologique. Pendant toutes les années où État est extrêmement puissante, fait de très nombreux morts et radicalise les relations entre une partie de la société basque et la société espagnole, eh bien, en Catalogne, les choses se passent plutôt bien parce que le grand parti nationaliste, que l'on appelle Convergence, et Union, eh bien, joue le jeu de l'autonomie, négocie avec le gouvernement espagnol, y compris avec la droite espagnole, en obtenant au fur et à mesure qu'on a besoin de ces voix pour investir un président du Conseil, des avantages pour la Catalogne. Mais tout s'inverse à partir du milieu des années 2010, ou dès le début des années 2010, où ces nationalistes se radicalisent, deviennent des indépendantistes et vont jusqu'à mettre en œuvre un processus illégal, celui d'un référendum d'autodétermination de la Catalogne, qui a eu lieu le 1er octobre 2017, et qui, évidemment, n'a aucune valeur légale dans la Constitution espagnole. Puisque l'Espagne est un État unitaire, il n'y a pas de possibilité reconnue par la Constitution de référendum d'autodétermination.
Oui, on se souvient, ça s'était conclu avec l'exil de Carles Puigdemont, c'est bien ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que les Catalans, ils la demandent toujours autant, cette indépendance?
Alors, les Catalans, moi, je ne parlerai pas des Catalans, parce que les indépendantistes catalan, oui, mais la Catalogne est en réalité extrêmement divisée. Il ne faut pas imaginer que la situation catalane peut se décrire comme étant Madrid contre Barcelone, ou les Espagnols contre les Catalans, ou le pouvoir espagnol contre les Catalans. La population catalane est extrêmement partagée, en gros, en deux blocs. Tous les sondages montrent que, grosso modo, là, depuis une quinzaine d'années, s'il y avait eu un référendum sur l'indépendance de la Catalogne, eh bien, on aurait eu un résultat qui est très serré, même si, dans ces derniers mois, ces toutes dernières années, depuis 2017, le camp indépendantiste a tendance à perdre de sa force, et les sondages indiquent qu'un référendum aujourd'hui aboutirait à une victoire du non sur l'indépendance. Mais ça ne calmerait évidemment pas les ardeurs indépendantistes. On l'a vu partout, on l'a vu au Québec, on le voit aujourd'hui en Écosse. Lorsqu'un référendum est perdu par un indépendantiste, eh bien, il réclame évidemment un nouveau référendum. Donc il y a une partie de la population catalane qui est très indépendantiste, mais toute une partie de la population catalane, tout en admettant, tout en acceptant et en voulant même davantage d'autonomie, n'est pas indépendantiste, et le jeu se joue d'abord, la conflictualité se joue d'abord à ce niveau-là, en Catalogne même.
Alors la dernière partie de votre ouvrage, elle est consacrée à la recomposition de la scène politique espagnole et le bipartisme qu'on a évoqué plus tôt, le quasi-bipartisme. Vous expliquez qu'il a été bouleversé dans la seconde moitié des années 2010. C'est qui ces partis importants qui ont émergé à ce moment-là?
Alors, on a deux partis qui, de façon inégale, ont émergé à partir de 2014. C'est d'abord Podemos, un parti dont on a beaucoup parlé en France. Podemos, nous pouvons, qui est un parti de la gauche radicale, qui a prétendu porter sur la scène politique les aspirations du mouvement des indignés, de ce mouvement de protestation contre les mesures d'austérité provoquées par la crise économique et sociale très importante qu'a subi l'Espagne après 2008. Et qui a mis en avant des thèmes que l'on ne qualifiait pas à l'époque de populistes, mais qui ressemblent à ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme. C'est-à-dire le grand ennemi de Podemos, c'était ce qu'il appelait la caste, c'est-à-dire le petit corps des élites politiques et sociales qui dominaient la population espagnole. Donc Podemos a fait une rentrée fracassante à partir de 2014 sur la scène politique. Il est arrivé jusqu'à conquérir aux alentours d'une quinzaine de pourcents des voix au fil des élections. Il y a un deuxième parti qui était plus ancien, qui était né en Catalogne mais qui ne s'est répandu sur la scène nationale espagnole qu'à partir du début des années 2010, c'est Ciudadanos, citoyen, qui lui s'est positionné plutôt au centre droit, et il a essayé de concurrencer le Parti populaire à droite, comme Podemos est né avec l'ambition de devenir le parti phare, le parti majeur de la gauche espagnole en remplaçant le Parti socialiste. Podemos n'y a pas réussi. Il est même aujourd'hui très largement en déclin. Et le Parti socialiste est resté le grand parti de la gauche espagnole. Enfin, Podemos existe toujours, avec beaucoup de difficultés, parce qu'il est aujourd'hui concurrencé au sein de la gauche radicale par d'autres formations et par d'autres figures qui ne sont pas issues de Podemos. Par contre, Ciudadanos, lui, a pratiquement disparu. Il a fait plusieurs revirements stratégiques. Et aux dernières élections, il a fait des résultats absolument catastrophiques. Pas plus de près 2% des voix dans la plupart des provinces et il est aujourd'hui en état de mort cérébrale.
Alors, est-ce qu'on peut évoquer très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'interview, une dernière question, c'est celle de l'arrivée de l'extrême droite sur la scène politique avec le parti Vox, qui a fait 11% des voix aux élections autonomiques andalouses du 2 décembre 2018. C'est quoi la place de l'extrême droite aujourd'hui en Espagne ?
La place de l'extrême droite, elle est tout à fait fondamentale parce qu'elle conditionne en réalité les possibilités de formation d'un gouvernement espagnol. L'extrême droite n'est pas assez forte pour gouverner. On n'est pas dans une situation à la française où le Rassemblement national ou Marine Le Pen peuvent apparaître comme de possibles vainqueurs des prochaines élections présidentielles. Vox a des résultats qui sont très très inférieurs à ceux du Parti populaire, mais Vox est aujourd'hui indispensable au Parti populaire pour conquérir le pouvoir. Et comme le Parti populaire s'est fâché avec tout le reste de la société politique espagnole, en particulier avec les partis indépendantistes basques et catalans qui parfois l'avaient soutenu, parce que vous avez des partis en Catalogne et au Pays Basque qui sont plutôt à droite sur le plan idéologique, mais il est impossible pour le Parti populaire de rencontrer de construire une alliance sur ces bases. Donc le Parti populaire ne peut s'allier qu'avec Vox. Et donc si la droite arrive au pouvoir en Espagne dans un moyen terme, ce sera avec l'appui de l'extrême droite.
Un grand merci Hubert Pérez pour cet exercice de synthèse que vous avez réalisé avec brio. Donc on rappelle, votre ouvrage s'appelle La politique espagnole.
La politique en Espagne.
La politique en Espagne, merci. Et c'est aux éditions La Découverte. Merci beaucoup, à bientôt dans Allume la Science. Et on passe maintenant à notre invité des trois dernières minutes. Et cette semaine, j'accueille Christine Lered, chercheuse à Géosciences, pour nous présenter le prochain rendez-vous des petites conférences de l'OREM, l'Observatoire de Recherche Montpelliéraine de l'Environnement. Cette conférence se tiendra le jeudi 14 décembre de 13 à 14h sur le campus Triolet. Bonjour Christine.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue dans Allume la Science. Alors, donc, vous êtes géophysicienne, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Je suis plus particulièrement spécialiste des mesures en forage, notamment appliquées à ce qui est la paléoclimatologie, c'est-à-dire les études des climats anciens.
Alors, c'est vous qui allez donner cette prochaine conférence. Est-ce que vous pouvez nous en donner le thème ?
Alors, le titre, c'est « Le réchauffement climatique, on en parle pour agir ». Le but étant de sensibiliser et d'échanger sur cette question du changement climatique.
Donc les géophysiciens et géophysiciennes ne sont pas ceux qu'on entend le plus sur la question du réchauffement climatique. Comment vous participez justement, vous, à l'élaboration des modèles de prévision et à tous les scénarios ?
Alors en fait, ma recherche consiste plutôt en l'étude des événements passés des extinctions biologiques majeures qui sont liées à des augmentations importantes de température, parce que ces événements sont intéressants à étudier, considérés comme des analogues du réchauffement climatique actuel et de son évolution future. Et plus particulièrement, moi, j'ai développé en fait des programmes pour essayer de voir à quelle échéance se font ces augmentations de température et si on peut prédire des cycles dans ces événements d'augmentation de température. Donc ce sont des modèles qui sont basés sur de la physique, forcément.
Alors c'est les conférences donc, que vous allez donner donc le 14 décembre prochain, elles prennent quelle forme ? Est-ce qu'il y a un échange avec le public ?
Alors en fait, cette conférence, effectivement, elle aura lieu jeudi 14 décembre entre 13h et 14h sur le campus de Triolet. Donc c'est une conférence qui est gratuite et sans inscription. Et du coup, je vais d'abord faire une présentation pendant 40 minutes et ensuite nous aurons 20 minutes d'échange puisque à la fin de cette conférence, j'ouvrirai la discussion sur les impacts probables du réchauffement, ainsi que des décisions politiques et sociétales qui ont été prises, notamment lors des COP des années précédentes, comme la COP qui est actuellement en train de se tenir à Dubaï. Et donc oui, il y aura un échange important avec les personnes présentes sur ce sujet.
On a annoncé encore ce matin, ce sera ma dernière petite question, mais on a entendu ce matin sur France Inter que finalement les 1,5 degrés, on les atteindrait avant 2030 a priori. Est-ce que vous avez encore l'impression que les modèles de prévision, ils touchent les gens et ils servent à sensibiliser ?
Alors, j'enseigne énormément sur ce sujet à tous les niveaux, que ce soit en licence ou master. Et je vois bien que, oui, il faut sensibiliser les gens. Ils ont besoin d'avoir des informations sur ces sujets. Et en tant que scientifique, mon rôle, c'est de leur présenter toutes les possibilités, parce que bien évidemment, dans les différents modèles, il y a les modèles dits optimistes et les modèles dits pessimistes. Et mon but est effectivement de sensibiliser notamment les jeunes et les moins jeunes à cette question et au fait que, on a quand même encore la possibilité de diminuer donc la température que l'on pourra avoir d'ici à 2100, sachant que c'est vrai que la majorité des modèles montrent que les 1,5 degrés, si on continue donc sur la trajectoire actuelle, devrait être atteint d'ici à 2030.
Et oui, alors on vous remercie, beaucoup Christine Lered, on sera présente, donc je rappelle, jeudi 14 décembre de 13 à 14h sur le campus Triolet, donc pour vous écouter, c'est dans l'amphi A je crois, c'est ça?
Alors ce sera l'amphi 2 du bâtiment 36 au rez-de-chaussée.
Super, je vous remercie encore et à bientôt dans Allume la Science.
Ben, je vous remercie aussi et je vous souhaite une très bonne journée.
Très bonne journée, merci. Allume la Science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la Science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.